OK, alors bienvenue, si on peut, Monsieur Jean-Louis, si vous vouliez bien fermer la porte, s'il vous plaît, pour moi, j'apprécierais, merci beaucoup. Alors, ce matin, on complète la leçon 7, si je ne m'abuse, c'est ça. Donc, en principe, vous avez une copie de votre leçon, que vous avez reçue par courriel. On en avait fait réimprimer une dizaine. Si vous n'en avez pas besoin, c'est la même que la semaine dernière. Faites-moi signe, parce que des fois, on a des gens qui joignent qui arrive, puis c'est la première fois qu'il assiste au cours. Là. Et donc, ça peut être pertinent d'avoir une copie des notes. D'accord? Donc, je m'appelle Yannick Étier. On est dans le cours La Bible, un livre divin. La Bible, livre humain ou divin. Je vais l'avoir d'ici la fin de la session. La leçon 7. Et puis, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, ce cours-là est basé sur deux livres. Un livre de Kevin DeYoung et puis un livre de Craig Blomberg. Et donc, on est dans la deuxième partie où on cherche plus à répondre à des questions de défense des Écritures, de défense de la Bible, des questions que nos contemporains nous posent souvent, que nous-mêmes on est amenés à se poser sur la validité, disons, de la Bible. Qu'est-ce qu'on a qui nous permet de croire que ce texte-là est bel et bien la parole de Dieu? Et donc ça, c'est toute la deuxième partie du cours. Si vous voulez vous rattraper sur le cours, vous pouvez vous inscrire et recevoir donc le cours à chaque semaine, puis aller trouver les notes et les audios aussi du cours sur le site Internet. On va dire un mot de prière ensemble. Bien, Père éternel, on veut te remercier, Seigneur, pour ta sainte parole, ta parole qui nous parle, qui nous transforme, comme on va le voir dans Jean ce matin, ta parole qui nous habite aussi, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir ce temps, de bénir cette leçon ensemble. C'est un sujet délicat qu'on aborde, puis en même temps tellement important. Important parce qu'on veut être honnête avec toi, honnête avec nous-mêmes et honnête avec les gens qui cherchent, qui questionnent, Seigneur. On veut avoir la foi et avoir une foi intelligente. Alors, je te prie, Seigneur, de nous bénir ensemble, de m'aider, de m'assister afin que je puisse être le plus clair possible et que nous puissions sortir d'ici édifiés, Seigneur, fortifiés dans notre foi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Je n'étais pas fâché la semaine dernière de passer deux semaines sur cette leçon-là. C'est probablement le sujet ou la leçon la plus délicate qu'on aborde dans le cadre de ce cours-ci. Peut-être aussi la plus technique un peu. La question qu'on a commencé à examiner la semaine dernière, est-ce que nos copies de la Bible sont désespérément corrompues? Traduction un petit peu lourde, là. Mais est-ce qu'on peut se fier à ce qu'on a entre les mains, dans quelle mesure ça reflète les manuscrits originaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que c'est possible que j'ai un micro sans fil? Je vais avoir deux, trois questions. Merci, Étienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous résumer un peu la problématique ou la question qu'on a soulevée la semaine dernière? Je vais probablement prendre un petit peu moins d'intervention ce matin pour m'assurer qu'on complète la leçon, mais juste en deux, trois minutes de révision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'essayer à nous résumer la question qu'on a soulevée la semaine dernière? Un brave que je pourrais désigner? Non? Personne? Oui, certainement. Tiens, merci.
Des textes originaux, est-ce que nos copies sont conformes et ont suivi toutes les règles de transcription?
OK.
Si c'est bien fait.
Oui, bien dit, merci. Excellent. Donc, lorsqu'on parle d'inhérence des Écritures, on va avoir une leçon juste sur la question de l'inhérence des Écritures, d'accord? Mais l'inhérence des Écritures, c'est pas un mot vraiment français, c'est un mot qui a été construit pour la théologie, d'accord? Comme dans bien des domaines de spécialisation, des fois on crée du vocabulaire pour illustrer certaines idées. Donc, inhérence sans erreur. Et ce que cette doctrine-là affirme, que les chrétiens en grande majorité affirment depuis toujours, c'est que au moment de l'inspiration des Saintes Écritures, quelques livres que ce soit de la Bible, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans l'auteur humain qui était là. Et donc, c'est un ouvrage avec co-auteur, si on peut dire. D'accord? Et l'Esprit était à l'œuvre de telle sorte à ce que l'auteur humain a vraiment transmis entièrement l'idée de Dieu, même dans le choix des mots. D'accord? Puisque les mots portent des idées, les chrétiens affirment cela depuis toujours. D'accord? Et on avait déjà même regardé un petit peu avec Kevin DeYoung dans une leçon précédente, que Jésus semble aussi pas mal avoir cette conviction-là dans son traitement de l'Ancien Testament. Lorsqu'il cite l'Ancien Testament, il prend définitivement pour acquis, donc on voit Jésus citer les Écritures, l'Ancien Testament à plusieurs reprises, et il prend pour acquis que ce qui est écrit là dans l'Ancien Testament, c'est vraiment parole de Dieu. D'accord? Doctrine de l'inhérence des Écritures affirme que les textes originaux, les manuscrits originaux, lorsque Jean s'est assis pour écrire l'Évangile de Jean, est inspiré par l'Esprit de Dieu. Les chrétiens ne croient pas, n'affirment pas, ou très rares sont ceux qui le font, que l'inhérence des Écritures s'applique à la transmission à travers les siècles. D'accord? Si ça avait été le cas, ça aurait voulu dire que chaque fois que quelqu'un s'est assis pour faire une copie de la Bible, le Saint-Esprit aurait été à l'œuvre de telle sorte à ce qu'il n'y ait aucune erreur de copiste qui soit là. Dieu aurait pu le faire. Dieu aurait pu le faire. Force est d'admettre que ce n'est pas le cas. Avec les informations qu'on a, ce n'est pas le cas. Et donc là, la question qui est soulevée, c'est oui, mais OK, si Dieu a inspiré les textes originaux, et s'il y a des erreurs de copiste qu'on constate qui se sont glissées, mais dans quelle mesure est-ce que le texte qu'on a entre les mains est fiable et près des textes originaux, celui qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu, ou est-ce qu'on est, excusez-moi l'expression, way out, incapable de discerner là-dedans la parole de Dieu? D'accord? Donc c'est ça la question qui est posée, c'est toute la question de la transmission à travers les siècles. Évidemment, cette question-là concerne toute la période avant l'impression. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur qui se glisse au niveau de l'impression, mais évidemment, puisqu'on imprime à de larges copies, de larges quantités, le nombre de possibilités d'erreurs qui peuvent se glisser est plus faible à partir du moment où on vérifie la première copie. Maintenant, comme je l'ai dit la semaine dernière, si vous êtes moindrement bon en français, ça se peut que des fois vous soyez en train de lire votre Bible française puis vous dites « Oh, il y a une faute de français ici. » D'accord? Ça arrive, là, dans ma Louis II, des fois, une petite faute ici, on pourrait leur écrire un petit courriel, dire « Prochaine édition, ajoutez un S ici, ça va être plus français, d'accord? » Donc, même dans le cas d'impression, c'est possible qu'il y ait des erreurs qui se glissent, puisque l'erreur est humaine. Ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière, c'est, dans le fond, dans les questions populaires, lorsque vous jasez avec les gens, le genre de réflexion qu'ils vont vous apporter, ça va être une réflexion comme ceci. Puisque la Bible est un livre très ancien, est-ce que c'est pas évident qu'il n'a pas pu être conservé de manière intégrale? Est-ce que c'est pas évident? Comment pourrions-nous croire que la Bible que nous avons dans nos mains aujourd'hui, quelques 2000 ans plus tard, est identique ou pratiquement à celle que les premiers chrétiens ont lue? Alors ça, c'est le genre de question, dans le fond, que nos contemporains nous posent. Puis il y a une pensée populaire qui s'est imposée. Souvent, ce n'est même plus des questions, ce sont des affirmations, des convictions. On le sait, de toute façon, il y a plein d'erreurs là-dedans, puis c'est pas fiable. Et puis la culture populaire tend à affirmer cela avec des recherches, des documentaires scientifiques hautement fouillés, comme le film Le Da Vinci Code, ou des choses comme ça, très sérieux, des ouvrages vraiment très, très solides. Et puis les gens croient ça, d'accord? Donc comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai quelqu'un dans ma famille, ingénieur, un esprit vraiment brillant, qui avait tiré toutes ses conclusions parce qu'il avait lu le Da Vinci Code. Puis à partir de là, il a fait quelques recherches sur Internet, il a trouvé d'autres théories de conspiration. L'Église catholique qui a caché des documents pour ne pas qu'on sache que dans le fond, Jésus était marié avec Marie-Madeleine, puis il avait eu un enfant, puis tout ça. Bon. Et puis, c'était clair, c'était réglé. It was a done deal. Ce qu'on a soulevé la semaine dernière, c'est que si tu veux faire une affirmation comme ça, la moindre des choses, ce serait de dépasser le roman qui rapporte des millions à l'auteur pour pouvoir aller faire des recherches plus sérieuses. D'accord? Surtout qu'il y a une science qui s'est développée autour de cette question-là des manuscrits qui s'appelle la critique textuelle. D'accord? Et donc ça, c'est une science vraiment où des juifs, des chrétiens consacrent des fois leur vie entière à étudier des manuscrits. Combien est-ce qu'on a de manuscrits du Nouveau Testament lorsqu'on prend là, toutes les formes possibles de manuscrits entiers, partiels, citations, tout ça? Quelqu'un qui sait, on parle de combien de manuscrits? 25 000 avec toutes les citations. Des manuscrits, simplement des écritures en grec, 5 000 quelques. D'accord? Mais là, lorsque tu prends les langues anciennes, le syriaque, ces choses-là, et puis tu prends les citations par les pères de l'Église, on arrive à quelques 25 000 manuscrits. Et donc, simplement, ce fait-là met la Bible dans une classe complètement à part. Comme on va le voir à la fin de la leçon, il n'y a pas de comparable avec d'autres textes anciens. D'accord? Il n'y a pas de comparable. La Bible est vraiment dans une classe à part. Maintenant, ce que ça implique, 25 000 manuscrits, puis là, on parle pas d'impression, d'accord? C'est avant l'impression. On parle de cursive et d'onciale, c'est-à-dire de lettres attachées, tout simplement en minuscules, ou tout simplement des lettres carrées plus grandes. Et donc, c'est ça qu'on parle lorsqu'on parle des 25 000 manuscrits. Alors oui, il y a des erreurs qui se sont glissées de la part des copistes. Et la semaine dernière, j'étais préoccupé quand j'aborde ça, d'aborder ce sujet-là, parce que pour certains d'entre vous, c'est un choc, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous êtes probablement même jamais penché sur la question, mais vous avez pris un peu pour acquis, puisqu'on affirme toujours que les Écritures sont inspirées de Dieu, que par défaut, la transmission devait être aussi, puis à quelque part, dans un coffre, on a une copie de tous les originaux gardés dans l'Arche de l'Alliance. Mais comme Indiana Jones n'a pas fini son travail encore, on les a pas retrouvés, comprenez? Et donc, non, on n'a pas d'originaux. On n'a pas d'originaux. On est près, dans certains cas, comme dans l'Évangile de Jean, on est près des originaux. C'est bien possible, très possible, qu'on ait la copie d'une copie de l'Évangile de Jean. D'accord? Donc, Jean forme un disciple. Le disciple, il dit, attends un peu, il faut que je chaîne ma copie dans ma poche d'en arrière. Fais une copie, puis on aurait la copie de cette copie-là. D'accord? Donc, dans certaines situations, on a des textes qui sont très, très près quand même des originaux. Et donc, il y a des erreurs qui se sont glissées. Les scientifiques ne sont pas capables encore de répertorier véritablement combien d'erreurs se sont glissées. On a une petite marge d'erreur dans le nombre qu'on établit. On hésite entre combien et combien. Là, je suis encore dans ma petite révision. 200 000 et 400 000. Petite marge d'erreur, d'accord? Ils ne sont pas capables de toutes les répertorier parce que malgré les technologies qu'on a, on n'est pas rendu à l'endroit où l'ordinateur va pouvoir analyser tout ça, tous ces manuscrits-là, rentrer tout cela, toutes les nuances. Ça prend encore l'œil humain avec l'expertise humaine pour aller étudier ces choses-là et déterminer ça. Donc, il y en a qui classent ça à peu près dans les 400 000, donc dans les 200 000. Mais déjà, lorsqu'on dit peut-être 200 000 erreurs de copistes, ben là, tu peux dire qu'est-ce qui me reste. C'est 200 000 erreurs, c'est quelque chose. Tu sais. Sur 25 000 manuscrits, ça donne peut-être une moyenne d'environ 8 erreurs par manuscrit. Ah, déjà, là, on apporte quelques nuances, d'accord? Et on a vu la semaine dernière que la grande majorité des erreurs de copistes se situe dans environ 5 % du texte biblique du Nouveau Testament. D'accord? Évidemment, s'il y a quelqu'un qui fait une erreur majeure lorsqu'il est en train de copier son manuscrit, je ne sais pas, il parle de Lucie et de Lucien qui sont mariés ensemble, puis là, il dit non, ça ne marche pas ça. Bien, si l'erreur est grosse, dans le travail des copistes qui vont suivre, c'est là qu'il va y avoir le plus d'erreurs aussi, parce que la première fois que tu le lis, tu dis non, ça se peut pas. C'est impossible. Alors là, il y a des copistes qui disent, bon, on va régler le problème. ils éditent, tu sais. Puis là, l'autre arrive, il dit, ouais, mais j'ai celui-là où il l'a pas, puis j'ai celui-là où il l'a. Fait que donc, il y a un problème. Fait sa version à lui. Bon, à un certain moment donné, il y en a qui ont été assez intelligents pour arrêter de faire ça, puis marquer ça en marge. Je résume très grossièrement, d'accord? Mais alors, certaines des variantes, certaines des familles de manuscrits n'ont pas de correction à l'intérieur du texte, ils ont des corrections en marge. Ou s'il y a une correction dans le texte, il va y avoir une note en marge pour dire on a apporté tel changement. Ça nous permet de retracer l'origine puis où est-ce qu'on était, d'accord? Donc, déjà, ça aide à préciser. Je vais prendre des brèves questions ce matin parce qu'il faut absolument que je couvre ma leçon. Vas-y, François. Donc, tu parles de différentes qualités de copie, c'est ça que tu veux dire? Si j'oublie de répondre à ta question, quand je veux parler de preuves externes, fais-moi signe. Okay, mais je vais répondre exactement à cette question-là, c'est très pertinent. D'accord? Donc, la question qui était posée par François à Fournier, c'est est-ce qu'il y a des qualités ou des groupes de copies qui sont classés selon leur qualité, tout ça? On vient à ça dans quelques instants. Je suis encore un petit peu dans ma révision. Là. Je veux juste m'assurer que c'est clair. La semaine dernière, on a vu ensemble les deux passages les plus critiques dans le Nouveau Testament où la grande majorité des spécialistes s'entendent pour dire on parle de la fin de l'Évangile de Marc. D'accord? C'est vraiment le texte le plus long. La grande majorité des spécialistes s'accordent pour dire que ce texte-là n'était pas là dans l'original. Lorsqu'on le lit, lorsqu'on arrête à Marc 16, 8, on comprend pourquoi certaines personnes se disent « Oh, il nous manque une finale ici, on va faire quelque chose avec ça, d'accord? » Mais Mais comme j'ai dit la semaine dernière, simplement pour illustrer le fait qu'on va être intègre avec toute cette question-là, dans vos Bibles, si vous avez une Bible d'étude qui a moindrement des micro-annotations, là, d'accord, vous allez trouver des commentaires qui vont mentionner ces choses-là. Okay? D'où l'avantage d'avoir une bonne Bible d'étude. C'est une des faiblesses des versions électroniques que vous allez trouver. Souvent, c'est compliqué d'aller lire la notation. On l'a pas en visuel. Quand tu l'as sur ta version papier, tu le sais, oups, puis là, tu t'en vas lire ça. Fait que je vous encourage à garder une bonne Bible d'étude en version papier quand même. Même si je passe 80% de mon temps, 90% de mon temps dans des logiciels moi-même, c'est quand même pratique pour le faire. Puis, vous allez voir que les éditions modernes sont honnêtes avec la question. Donc, on a vu qu'il y avait deux passages, un passage dans Jean et puis un passage dans Marc. Vous avez ça dans vos notes, je ne reviens pas sur ça, d'accord? Mais les premières fois que tu es confronté à ça, tu dis, aïe, aïe, c'est énorme. Ce sont les deux passages les plus substantiels. Après ça, c'est des passages beaucoup plus courts. Et comme je vous dis, là où il y a des questions sérieuses, la grande majorité des questionnements sur les variantes se tourne autour de 5%, 6% du texte maximum. Parce qu'une grande, grande quantité d'erreurs de copistes sont faciles à identifier lorsque les spécialistes étudient les textes. Ils arrivent dans une erreur de conjugaison, je vais dire comme ça, puis il manque un S, là. Je simplifie, d'accord, on est en grec, là. Mais, puis l'erreur est évidente. Donc, il y a énormément d'erreurs de ces, admettons, 200 000 variantes-là. On a mentionné la semaine dernière que dans les deux éditions, on appelle ça des éditions critiques du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui se sont appliquées à dire, bon, ben OK, là, une fois qu'on considère tout ça, voici le texte. Puis dans ces éditions-là, en bas, vous avez énormément de mentions. OK, ça manque dans tel manuscrit, ça, j'en ai dans ma bibliothèque. Ça vous tente de découvrir le grec, vous viendrez m'emprunter ça, d'accord? Et donc, avec quelques heures, quelques jours d'études du grec, tu peux déjà au moins comprendre cette question-là qu'il y a des erreurs ou des choses où on n'est pas sûr là. Des 200 000 variantes, il y en a environ 4 000 quelques qui sont mentionnées dans ces Nouveaux Testaments grecs-là, parce que c'est les seules qui sont assez pertinentes pour qu'on ait vraiment des questionnements qui pourraient affecter des choses au niveau du texte. Et de tout ça, il y en a, là, je ne vais pas vous induire en erreur, je pense que c'est 1% qui sont mentionnés dans nos Bibles modernes, d'accord? Je parlais des notes de bas de page, parce qu'encore une fois, une fois qu'on a étudié tout ça, c'est ce qui reste de pertinent à examiner. Donc, je reviens sur la question de la preuve interne, de la preuve externe. Comment fonctionne la critique textuelle? Comment est-ce que ces spécialistes-là réussissent à construire ça? D'accord? Puis ça, c'est important que vous le sachiez, parce que si vous voulez vraiment engager une conversation avec quelqu'un sur cette question-là, il faut quand même pouvoir expliquer un peu c'est quoi cette science-là. Cette science-là repose sur deux éléments. Les preuves externes, les preuves internes. Les preuves externes, c'est les familles de manuscrits physiques. D'accord? On parle de 25 000 manuscrits. François posait la question, est-ce qu'il y a des classes de qualité? Définitivement. Alors, la première chose que ces spécialistes-là font, puis dans le fond, c'est un travail cumulatif sur des siècles, d'accord? C'est qu'on va regrouper les familles de manuscrits, soit de par leur lieu d'origine, soit de par leur période d'origine, leur langue. Et au fur et à mesure qu'on est en train de faire ça, on apprend à connaître la qualité de travail de transmission qui a été fait. Alors oui, il y a des gens, par exemple, lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, j'ai mentionné la semaine dernière les Massorètes, qui étaient des Juifs qui faisaient des copies de l'Ancien Testament. Ils sont extrêmement réputés pour leur rigueur dans leur travail de copiste. On donne souvent l'illustration extrême mais réelle que certains d'entre eux, dans la pratique du travail de copiste, avaient identifié que dans telle page ou sur tel rouleau plutôt de l'Ancien Testament, eh bien, si on était rendu dans tel chapitre, qui n'était pas divisé encore en chapitres, comme je vous dis, c'est un peu sommaire mon affaire, mais on comptait les lettres, puis au centre de la page, ce que je devais trouver, admettons, ça serait un X. Bon, mais on allait chercher la lettre au centre, puis si c'était un Y, parce que l'autre était juste à côté, on déchirait ça, on jetait ça aux poubelles. C'était fini. C'est sûr qu'il y avait une erreur dans ta page. D'accord? Et donc, les Massorètes avaient une méthode de travail extrêmement méticuleuse. C'est intéressant à chercher. Cherchez ça sur Wiki. Massorètes Text, puis vous allez voir des choses là-dessus. C'est vraiment fascinant. Donc, c'est pas des affaires qu'on s'imagine, tout ça, d'accord? Et donc, on a regroupé les familles de manuscrits de par ces informations-là externes. D'où est-ce qu'ils viennent? Quelle était la qualité de conservation? Quelle était la qualité de travail de copiste? Puis là, après ça, on a d'autres informations qui viennent s'ajouter. Là, on va aller vers les preuves internes, d'accord? Par exemple, telle famille de manuscrits a été écrite par ces gens-là et dans leur théologie, ils croyaient un petit peu plus à ça qu'à ça. Ah, ça se peut que ça influence certains choix par rapport aux manuscrits, d'accord? Et là, on s'en va vers la preuve interne. La preuve interne, c'est qu'est-ce que... puis là, ça devient un petit peu plus subjectif, mais ça demeure pertinent. Qu'est-ce que la personne qui a fait la copie croyait ou qu'est-ce qu'elle a pu penser devant le texte, d'accord? Si on peut identifier la famille théologique qui a fait cette copie-là, puis on connaît ce qu'il croit, on a des indices. Mais d'autres fois, c'est simplement en lisant le texte, tu te dis, wow, OK, c'est gros. Donc, l'exemple que j'ai donné la semaine dernière, c'est le passage dans Matthieu. On va juste le relire rapidement. Là. Je me lance, puis je n'ai pas regardé où est-ce qu'il est dans mes notes. Là. Page 4, si vous avez les notes avec vous. Matthieu 5, 22. Certaines éditions de la Bible, probablement celles que vous avez entre les mains, vont dire que si quelqu'un se met en colère contre son frère, voilà, ça va s'arrêter là. Donc, le texte va continuer. Mais si vous allez dans la King James Version, par exemple, ça va être si quelqu'un se met injustement en colère contre son frère. OK? Fait que, quand on étudie le texte, là, on dit, c'est quoi qui est le plus probable? Que Jésus a été aussi sévère que de dire, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il n'est pas digne d'hériter du royaume des cieux. Ou est-ce que ce serait si quelqu'un se met injustement en colère contre son frère? Bien, après étude, surtout que la King James Version a été bâtie à partir de 25 manuscrits, pas à partir de 25 000 manuscrits, après étude, c'est ça qui explique le fait que dans vos éditions, nos éditions modernes, le « injustement » ne sera pas là. À peu près tout le monde s'entend pour dire « non, connaissant Jésus, il n'y avait pas d'injustement. » Dans son langage, dans sa théologie, il est assez clair. Tu es dans cette portion du Sermon sur la montagne où Jésus affirme des choses vraiment inconditionnelles. Tu es parfait comme ton Père céleste ou tu n'es pas de ton Père céleste. Et c'est pas mal ça, le Sermon sur la montagne. D'accord? Fait que ça, c'est un exemple où, en utilisant les preuves internes, on va arriver devant le texte puis on va dire qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du copiste. D'accord? On n'est pas dans les informations factuelles. On essaie de réfléchir en sachant qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils croient, devant le texte, cette période-là dans l'histoire de l'Église, qu'est-ce qui a pu se passer là? D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle les preuves internes. Est-ce que vous avez des questions sur les preuves internes, preuves externes? C'est bon, ça va? OK. Donc, à partir de ce travail-là, laissez-moi juste voir si j'oublie quelque chose. Comme je l'ai mentionné, là, je suis toujours au milieu de la page 4, la majorité des variantes vont être des erreurs d'épellation, des choses comme ça, d'inversion de lettres. Donc, c'est assez évident dans ce cas-là, on peut le corriger. Des erreurs que nous-mêmes, on fait régulièrement, d'accord? Si vous allez au bas de la page 4, ainsi, la majorité des variantes dans les manuscrits ne sont d'intérêt que pour les spécialistes. Moins de 3 % des 400 ou des 200 000 variantes sont suffisamment pertinentes pour être mentionnées dans les notes de bas de page du texte grec critique qui est utilisé pour créer nos traductions modernes. Et environ un dixième de 1 %, c'est moins que ce que je mentionnais tantôt, des variantes sont suffisamment pertinentes pour se retrouver en notes de bas de page de nos traductions françaises. Donc, conclusion, la critique textuelle est une science qui tend à confirmer la validité. Malgré toute l'époque puis tous les siècles qui nous séparent, la validité du texte qu'on a entre les mains, la fiabilité. Lorsqu'on prend le temps de lire sur ça, et j'avais mentionné au début du cours la semaine dernière qu'un des messieurs qui a relancé toute cette polémique-là en 2005, c'est un monsieur Hermann, Bart Ehrman, et dans son livre, il laisse entendre, et ce monsieur-là est anciennement un chrétien évangélique, aujourd'hui il se dit agnostique, donc il dit si Dieu existe, il n'y a pas moyen de le savoir vraiment, il ne s'est pas révélé à nous. Aujourd'hui, ce monsieur-là s'applique, si vous le cherchez sur Internet, vous allez trouver des beaux vidéos, mais vraiment il s'est donné un agenda de brasser les certitudes des chrétiens, tout ça. Et donc, dans son livre, lorsque tu lis, tu as l'impression, tu termines ça en disant, oui, mais là, dans quelle mesure le texte est fiable? Et pourtant, comme je le mentionnais la semaine dernière, dans la version poche de son livre, en annexe, bien sûr, seulement en annexe, il va affirmer la chose suivante. Là, je suis au haut de la page 5. Les doctrines essentielles de la foi chrétienne ne sont pas affectées par les variantes textuelles des manuscrits du Nouveau Testament. D'accord? Vous comprenez, si on parle de 6% où on a des questionnements, tous les théologiens qui étudient la question sérieusement, d'accord, vont arriver à la conclusion suivante. Aucune doctrine orthodoxe ou éthique, d'accord, donc on parle de ce qu'on croit, comment Dieu est et comment un chrétien doit se comporter, de la foi chrétienne n'est affectée ou repose sur ses variantes. Alors évidemment, s'il y a un texte où il y a une variante, par exemple, vous ne nous verrez pas, même si on a des serpents là-bas, dans la jungle, on n'en fait pas une pratique de tester pour voir si vraiment vous êtes chrétien par la morsure du serpent. D'accord? Il y a des sectes américaines qui font ça, vous pouvez les trouver sur Internet, mais comme c'est sur un texte qui n'est pas tellement fiable, je préfère pas me laisser mordre. Donc les doctrines de la foi chrétienne ne sont pas construites sur des textes où on n'est pas convaincu que c'est solide. D'accord? Jamais on va faire ça de peur de fonder notre foi sur quelque chose qui n'est pas sérieux. Oui, Camille.
Aussi, c'est pour ça que les doctrines ne sont pas fondées sur un seul verset, mais sur des versets, sur plusieurs versets.
Oui.
Souvent, c'est pour confirmer. On peut pas dire qu'il y a un verset qui nous guide dans une grande doctrine. Ça évite que ce soit justement une erreur ou quoi que ce soit qui ait pu guider l'Église dans une doctrine quelconque.
Oui. Et donc, un principe en interprétation des Écritures, c'est qu'on cherche toujours, qui va un peu dans le même sens du commentaire de Camille, on cherche toujours à éclairer un texte obscur par un texte clair. D'accord? C'est pas tout là, qui est clair dans la Bible. Il y a des textes où tu le lis et tu te dis, oh boy, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça, c'est un peu mystérieux ici. Puis ça fait partie des Écritures. D'accord? On parle pas de mystère à la Nostradamus. Il y a des textes qui sont très, très clairs. Et donc, lorsqu'on est devant une affirmation qui est obscure, qui n'est pas certaine, il y a un principe en interprétation des Écritures, c'est que je vais éclairer ce texte-là par d'autres passages des Saintes Écritures pour pouvoir m'assurer de ce que Dieu est en train de nous enseigner ici. Et on ne va pas construire des doctrines essentielles. Les chrétiens ne devraient pas non plus entrer dans des conflits ensemble sur des textes qui sont obscurs. On ne devrait pas faire ça. D'accord? On reste sur les textes qui sont clairs avec les doctrines. C'est pour ça qu'on va parler généralement des doctrines essentielles de la foi. Je peux avoir d'autres convictions qui sont un peu parallèles sur des questions secondaires, mais je vais chercher à garder la sagesse de dire, ben, c'est pas mal ma compréhension, puis j'ai l'impression que c'est ça que Dieu est en train de dire, mais en même temps, je vais pas faire une affirmation sine qua non. D'accord? Maintenant, dans le milieu évangélique, vous allez trouver des pasteurs qui sont pas à l'aise d'aller dans cette de prendre une approche comme ça. Et donc, chaque fois qu'ils vont enseigner, tout semble clair. Et ils ne vont pas, dans un cours, dans l'Église, dire qu'il y a, par exemple, des erreurs dans les copies des manuscrits. Personnellement, je trouve ça malheureux. D'accord? Parce que ce que ça donne, c'est que vous allez vous lancer dans le combat pour défendre les Écritures naïvement. Et puis, quelqu'un qui va vraiment faire des recherches va vraiment trouver que votre foi n'est pas sérieuse. D'accord? Alors, je préfère... Dans l'Église, lorsqu'on est en train d'enseigner, négocier, dealer avec ces questions-là qui sont délicates ensemble, affirmer notre foi de manière intelligente et honnête avec le texte biblique. Personnellement, j'ai une absolue confiance que c'est bel et bien la parole de Dieu. D'accord? Mais j'ai dû faire face à ces questionnements-là lorsque j'ai commencé mes études en théologie. Et oui, les premières fois, c'est comme « pouf, ouch, est-ce que vraiment je peux me fier aux Écritures? » Oui. Une dernière intervention, ensuite on file avec l'ancien.
Je fais ça vite. Est-ce que la doctrine de l'inhérence est considérée comme une doctrine essentielle? Parce qu'en le fond, ça peut amener des discussions des fois sur des sujets qui sont peut-être un peu plus secondaires, mais si tu l'abordes sans vraiment voir le texte comme étant inhérent, le sujet est secondaire, mais ton approche du texte est majeure. Tu sais, dans le fond, ça vient...
Historiquement, donc l'inhérence, hein? L'inhérence, on a dit tout à l'heure, c'est... Dans les textes originaux, est-ce que Dieu était là pour inspirer jusqu'à chacun des mots? En gros, c'est ça, on va revenir sur l'inhérence un peu plus tard dans une autre leçon. Est-ce que c'est considéré comme une doctrine essentielle? Définitivement, dans toute l'histoire de l'Église, d'accord? La très, très grande majorité des chrétiens ont défendu l'inhérence des Écritures, souvent sans la défendre. OK? Dans le sens que, des fois, on regarde dans l'histoire des Écritures, puis là, tu dis, OK, l'inhérence des Écritures, à quel moment c'est apparu dans des confessions de foi? Bien, c'est apparu quand ça a été questionné. Mais la question que tu dois te poser, c'est même s'ils ne parlaient pas d'inhérence, c'est quoi qu'ils croyaient? D'accord? Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Dans les confessions de foi des églises évangéliques, la question est-ce qu'un individu qui pense être d'un autre sexe, même s'il est né avec tel sexe, devrait se faire opérer puis tout ça. C'est une question très, très, très contemporaine, hein, parce que ça aurait fait plus de dégâts il y a 200 ans de faire ces trucs-là, vous comprenez? Mais oh, la science permet d'autres choses, puis là, l'être humain, dans son éthique un peu brouillée, essaye d'autres affaires, puis là, on est confronté avec cette question-là. C'est la même chose avec l'homosexualité. Alors, vous ne trouverez pas dans bien des confessions de foi, en fait, je ne sais même pas si on le trouverait dans une seule confession de foi, c'est adressé dans des écrits théologiques, mais une confession de foi qui va dire qu'on croit que l'homosexualité, c'est le fruit du péché, puis qu'un individu qui va avoir un attrait, ça va être plutôt une déviance, comme un homme pour vouloir 26 000 femmes au lieu d'être heureux avec une épouse, c'est une déviance. Bon, ben, cette question-là n'était pas abordée aussi directement, c'était pas une question qui était là, d'accord? La société, les mœurs changent, ça soulève d'autres questions, mais lorsque je m'en vais dans l'histoire, je dis, qu'est-ce qu'ils croyaient même s'ils n'ont rien dit là-dessus? Mais c'est évident. C'est évident par le contexte. Donc, je peux aller l'étudier. Fait que l'inhérence n'a pas toujours été défendue, mais elle a toujours été crue. Et en fait, dans l'histoire de l'Église, les mouvements qui remettent en question l'inhérence et qui abandonnent cette idée-là de l'inhérence des Écritures, c'est très rare qu'ils survivent à 100 ans, à 200 ans de vie chrétienne. Éventuellement, le mouvement meurt. Par exemple, une des églises, c'est intéressant, il y avait une journaliste dernièrement, une théologienne qui répondait aux questions d'une journaliste, je crois, à Radio-Canada. Et puis la journaliste disait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le temps que l'Église, parlant de l'Église catholique, s'adapte à l'époque? Tu sais. Puis la théologienne a juste mentionné, elle a dit, mais écoutez, un bel exemple d'adaptation, c'est l'Église unie. L'Église unie s'est adaptée en tout point à l'éthique contemporaine, puis est pratiquement morte. Donc, on affirme ce qu'on croit, puis on se tient pour ces choses-là respectueusement, mais si on commence à changer tout ce qu'il y a dans le texte, tout ce que le texte affirme, parce qu'on dit, ben, peut-être qu'il n'est pas inhérent, tu sais, peut-être qu'il fallait le changer, peut-être qu'il y avait des erreurs, peut-être que c'était juste pour l'époque, mais ce n'est plus vrai pour aujourd'hui. Tôt ou tard, il ne reste plus grand-chose de ta foi parce que c'est fondé sur ça. Mais on va revenir sur l'inhérence. On avait commencé à l'aborder avec est-ce que Jésus croit dans l'inhérence? Lorsqu'on a parlé de la doctrine de Jésus sur l'inspiration des Écritures, c'est difficile de croire qu'il n'y croyait pas. Lorsqu'on regarde comment Jésus traite l'Ancien Testament, par exemple. Voilà pour le Nouveau Testament. Lorsque je me tourne vers l'Ancien Testament, comme j'ai mentionné la semaine dernière, étrangement, l'Ancien Testament, en fait, ça se comprend, ça s'explique un peu, là, mais pour l'Ancien Testament, on a beaucoup moins de manuscrits. Le texte est plus vieux, tout ça, il y a eu moins de copies anciennes qui étaient en circulation, mais étrangement, c'est pas ça qui soulève vraiment la polémique, d'accord? Probablement parce que du fait qu'on a beaucoup de manuscrits du Nouveau Testament, il y a plus de variantes, puis on dit, voilà, il y a plein de variantes. Puis on fait une espèce de généralisation simpliste, d'accord? Mais en réalité, si je veux être objectif, moins j'ai de manuscrits, plus il y a de marge d'erreur possible, d'accord? Parce que ça veut dire que si dans les premières copies, je ne peux pas aller vérifier, tu sais, un petit peu à côté, tout ça, je ne connais pas la qualité de transmission. J'avais donné une illustration la semaine dernière avec l'islam, par exemple, l'islam, qui se voit comme la troisième religion du livre, d'accord? Pour eux, l'Ancien Testament, l'Évangile, non pas tout le Nouveau Testament, mais eux autres, ils appellent ça l'Injil, puis après ça, le Coran, c'est le livre, trois révélations progressives, tout ça. Et donc, pour eux, c'est tout dans un sens la même foi, on parle du même Dieu. Et la manière qu'eux voient le Coran, c'est qu'ils disent, puisque le Coran est la troisième révélation, beaucoup plus récente en plus, mieux protégée des erreurs, bien, on peut s'y fier. Mais j'avais expliqué la semaine dernière, la pratique qu'ils ont faite est relativement simple. Quand Mahomet est décédé, il y avait plusieurs copies. Eux-mêmes le disent, là. C'est pas, j'invente pas ça. Si vous lisez sur l'histoire de l'islam par des musulmans, vous allez voir, c'est mentionné. Mais dans leur défense de la foi populaire, lorsque vous jasez avec eux, c'est pas les choses qui vont être mentionnées. au décès de Mahomet, il y avait différentes copies. Mahomet, c'est une construction qu'il a faite sur une trentaine d'années, d'accord? Et donc, il écrivait des idées par là, il écrivait des idées par là, des fois sur des terres cuites, des fois sur des peaux d'animaux, un petit peu tout ça. À sa mort, ils ont dit, ben là, ça nous prend une édition nette. Alors, ils ont ramassé ça ensemble. Ceux qui étaient à ce moment-là les pères de la foi musulmane ont rassemblé ça pour faire une édition et ils ont détruit tout le reste. D'accord? Puis on dit, voici celle qui est inspirée. Mais la marge d'erreur est énorme. Vous comprenez? Parce que là, toi, tu as décidé que tu détruisais quoi au juste? Ça aurait été le fun d'avoir des copies pour pouvoir les comparer, tu sais, puis les situer à quel moment il a écrit ça. Mahomet se contredit régulièrement dans le Coran, sur les Juifs, sur les chrétiens. Il se contredit lui-même énormément. Bien là, ça aurait été le fun de savoir, oui, mais cette version-là, il l'a écrit à quel moment? Il était-tu en guerre avec des chrétiens ou il n'était pas en guerre avec des chrétiens? D'accord? Oh, ça aurait pu influencer les choses. Voyez-vous? Alors, plus j'ai de manuscrits, de plein de siècles, de plein de lieux, de plein d'endroits, et que je les compare, puis que je détermine vraiment la marge d'erreur, plus je peux être près d'une certitude. Moins j'ai de manuscrits, plus c'est possible que dans les premières copies, on soit passé à côté, puis ça finit là. L'Ancien Testament a beaucoup moins de manuscrits. On parle de plusieurs centaines, mais on ne parle pas de 25 000. D'accord? Et surprenamment, c'est pas là. C'est pas là que. C'est pas sur l'Ancien Testament que les questionnements viennent beaucoup. Stéphane dit que ça a été transmis à travers un judaïsme assez pur à travers les siècles. Bien, je veux dire, scientifiquement, tu te fondes sur quoi pour dire qu'il est pur? Puisque tu ne peux pas aller plus loin que X. Tu vois? Fait que oui, c'est plutôt notre regard sur le judaïsme qui on va dire à celui-là, il est plus pur. Parce qu'évidemment, les chrétiens sont beaucoup moins. Et les musulmans sont beaucoup plus. Fait que, je veux dire, si tu ne peux pas remonter très loin, tu ne peux pas être sûr. Tu t'espères juste que ces gens-là, c'était des gens très, très sérieux. Ben, laissez-moi vous questionner. Moi, quand j'étudie le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, je ne les trouvais pas toujours très, très sérieux avec la parole de Dieu. Il fallait démolir des murs de bâtiments pour retrouver des copies, hein, à certains moments, si vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament. Mais donc, on avait beaucoup moins de manuscrits. Nos manuscrits les plus anciens remontaient environ en 200 de notre ère, après Jésus-Christ, pour l'Ancien Testament. D'accord? On avait des versions de la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, qui était un peu plus ancien. Et Dieu, dans sa souveraineté, a permis la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, si je ne me trompe pas. Et là, ça a été une mine d'or absolument incroyable. D'accord? Maintenant, ceux qui étaient déjà en train d'affirmer de plus en plus qu'on pouvait pas se fier au texte-là, se sont dit... On va pouvoir vraiment démontrer que l'Ancien Testament n'est pas fiable. Et c'est tout le contraire qui sort de ces recherches-là. Ça a pris énormément de temps avant de pouvoir sortir de l'information, parce qu'on trouve des manuscrits qui remontent jusqu'à 250 ans avant Jésus-Christ, des textes qui étaient écrits sur un papyrus fait avec du roseau. Donc, tu ne sors pas ça de là, puis tu fais pfff, puis tu le rouvres de même. Tu vois? Il vient de tomber en poussière. Mais je suis sérieux, là, c'est un travail vraiment de moine d'aller ouvrir ça. Alors, il faut faire des recherches sur ça, c'est vraiment passionnant. Mais vous comprenez, ils doivent les couper avec une lame, petite section par petite section, les déposer pour pouvoir l'ouvrir, les reconstituer, les photographier, analyser la photo que j'ai pour être certain que ça ressemble à ce que c'était quand c'était roulé, cette affaire-là. Vous comprenez? Donc, ça a pris énormément de temps avant que l'information commence à sortir. Mais plus l'information sort, plus l'information confirme. Par exemple, on a des parties ou des totalités de tous les livres de l'Ancien Testament qu'on a retrouvés là, à l'exception du livre d'Esther. Faites-lui confiance, c'est mon épouse. Donc on a des parties ou en totalité tous les livres de l'Ancien Testament. Et par exemple, dans le cas du livre d'Ésaïe, qu'on a pratiquement au complet, on peut comparer cette édition-là, qui est très, très vieille, avec ce que les Juifs se sont servis, puis les chrétiens se sont servis, puis la marge d'erreur est infime, d'accord? Alors, contrairement à ce que les gens pensaient, encore une fois, la critique textuelle tend à consolider la foi chrétienne et nous ramène dans cette marge d'erreur-là. Et en terminant, simplement pour donner quelques comparaisons, d'accord? C'est important parce que quand les gens abordent ces questions-là, dans le fond, leur, Dans le fond, l'attitude, c'est de dire, écoute, il y a tellement des choses grosses que vous affirmez à partir de la Bible. Par exemple, vous dites que Dieu existe. Vous dites qu'il y a eu des miracles. On va parler des miracles dans les prochaines semaines. Vous dites que Dieu va juger tous les hommes. Vous dites que Jésus est le seul chemin. C'est quand même, tu sais, c'est assez intense comme affirmation, d'accord? Donc, vous faites toutes ces affirmations-là. Comment est-ce qu'on pourrait s'y fier? Donc, c'est des questions importantes. Et l'attitude est la suivante, c'est de dire, puisque vous vous posez toutes ces questions-là tellement grosses, ça serait intéressant d'avoir une approche un peu plus scientifique à la question. D'accord? Est-ce que c'est fiable, ces textes-là? Je veux dire, en soi, c'est super louable. D'accord? C'est sûr que l'être humain a toujours un a priori. Un a priori, c'est quoi? Qu'est-ce que je croyais? Qu'est-ce que je pensais? Quelle était mon opinion avant d'étudier une question? Ça, c'est mon a priori. D'accord? Fait que je te vois rentrer, tu as de l'air de ci, tu as de l'air de ça. Avant qu'on se soit salué, j'ai déjà quelques idées sur toi. D'accord? C'est mon a priori. Ma culture va dicter tout ça. Donc, on a tous une a priori lorsqu'on étudie ces questions-là. C'est important d'en être conscient. Si mon agenda, c'est de démontrer que les Écritures ne sont pas la parole de Dieu, bien, j'ai un a priori qui va m'influencer possiblement dans mes recherches. D'accord? Mais ça demeure des questions valables. Et donc, c'est intéressant de faire ces études-là. Mais au début de la leçon, je mentionnais que la Bible est dans une classe à part. La Bible est dans une classe à part parce qu'on a, particulièrement pour le Nouveau Testament, un nombre de manuscrits qui le met complètement hors norme, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans notre étude en critique textuelle. Et au bas de la page 5, je vous donne quelques exemples. L'Iliade d'Homère, qui est un grand classique de la littérature grecque. Pour l'Iliade d'Homère, on a moins de 2500 manuscrits. D'accord? Fait que 25 000, 2500, faites le compte vous-même. L'histoire de l'Empire romain, un peu plus de 200 manuscrits. Pourtant, notre compréhension, notre analyse de cette époque-là ne remet pas en question ce qui est affirmé là. D'accord? Hérodote, historien grec du 5e siècle, avant Jésus-Christ, 75 manuscrits. Et puis, lorsqu'on s'en va ailleurs, après, là, on tombe dans les 20 une vingtaine de manuscrits et moins. Lorsqu'on parle, par exemple, et ça, je vous dirais que c'est plus pertinent pour nous, surtout qu'on va le revoir. On va revoir ça. Da Vinci Code, là, ça va revenir, cette histoire-là. Il y a une nouvelle génération dans 20 ans qui va dire « Hey, j'avais jamais entendu parler de l'Évangile selon Thomas. T'as-tu entendu parler de ça? Je pense que l'Église catholique l'a caché dans ses caves. Non, non, non. Vous allez entendre la même chanson. » Ça ressort régulièrement, d'accord? C'est des modes. Oui, oui, tout très, très, très facile à trouver. Vous pouvez aller les lire, d'accord? C'est vraiment pas quelque chose qu'on essaie de cacher ou quoi que ce soit. En fait, allez les lire. Ça devrait être la dernière fois que vous les lisez, à part si vous vous ennuyez un soir puis vous avez le goût de rire avant de vous endormir, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs évangiles comme ça qui ont été écrits. On appelle ça des proto-évangiles qui ont été écrits. Ils sont tous plus vieux, généralement reposent sur un ou deux manuscrits. Oui, allô? Un ou deux manuscrits tout au plus. Par exemple, si vous regardez le troisième avant-dernier paragraphe de la page 6, lorsque nous étudions la question des livres apocryphes et gnostiques, je n'irai pas là, j'ai plus le temps, je m'excuse, qui ont fait tant jaser au cours des dernières années, Baruch, Enoch, Maccabée, l'évangile de Barnabas, nous ne possédons généralement qu'un seul manuscrit, parfois deux. Le plus connu d'entre eux est l'évangile selon Thomas, et celui-ci repose sur un manuscrit complet du 4e siècle et un manuscrit partiel du 3e siècle. D'accord? Donc, est-ce que c'est vraiment Thomas qui l'a écrit? Ce serait bien difficile à affirmer parce qu'il est très, très tard. Il n'y a presque pas de manuscrits. Et donc, pour la grande majorité de ces questions-là, on est capable d'identifier de qui ça vient, à quelle époque, qu'est-ce qu'ils ont essayé de communiquer. En général, quel groupe de croyants, quelle secte est en train de sortir ça. Et lorsque vous allez entendre la prochaine grande découverte qui va être annoncée sur Internet, nous disant qu'on a découvert dans les caves du Vatican un manuscrit caché depuis des siècles, qui nous apprenait que Mahomet, Jésus et tous les autres sont dans une soucoupe volante avec Raël. Prenez le temps d'aller lire. Puis oh, on a eu ça la semaine dernière. Je pense que c'était avec ce pack-là, peut-être. C'est peut-être ça. Oui, je ne me suis pas gratté l'oreille cette fois-ci, c'est vrai. La semaine dernière, c'est quand j'avais gratté l'oreille. Tu veux-tu me remettre du son? Il ne devrait pas ressonner tout de suite, puis je vais juste tirer ma conclusion. Si tu veux me remettre du son, on changera tout de suite après. Il ne devrait pas repartir tout de suite. J'espère pour vos oreilles. Moi, voici le défi que je vous lance. La prochaine fois que vous voyez un conte semblable passer sur Internet, prenez des notes, puis suivez l'évolution de cette histoire-là. D'accord? Suivez-le. Mettez-vous le défi de dire, OK, on va fouiller ça. Puis si vous avez des amis qui vous disent, check ça. Ouais, viens-t'en, on va faire un bout ensemble. OK, on le suit pour la prochaine année. On veut juste voir à quel moment cette histoire-là tombe à l'eau. D'accord? Parce que la réalité, c'est ça. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, écoutez, on a 25 000 manuscrits du Nouveau Testament, en tout ou en partie. Les probabilités qu'on trouve un manuscrit qui vienne nous confondre et nous dire qu'il nous manque un cinquième évangile sont quasiment nulles, vous comprenez? Il y a bien d'autres certitudes sur l'histoire de l'humanité et sur le genre humain qui vont tomber avant qu'on remette ça vraiment en question. La critique textuelle, lorsqu'on l'étudie sérieusement, tend à défendre la validité, la qualité de transmission. On reconnaît qu'il y a des erreurs. Je n'adhère pas du tout au mouvement qui ne veut pas reconnaître qu'il y a des erreurs de copistes. Je crois que c'est une mauvaise attitude qui nuit au témoignage chrétien. Ces erreurs-là sont très minimes. Le pourcentage en est très, très, très faible. Et ça a tendance donc à confirmer notre foi. Et aucune des doctrines essentielles, que ce soit dans la doctrine ou dans l'éthique chrétienne, ne sont fondées sur des variantes. Puis Stéphane, tu as le mot de la fin.
Si on trouvait un cinquième évangile, il ne pourrait pas contredire les quatre premiers. Ça serait juste la preuve que c'est un faux évangile.
Ouais.
Donc, tu sais, tout le monde peut écrire n'importe quoi sur n'importe quoi. Donc, ouais. C'est clair qu'à travers les siècles, il y a eu des gens qui ont écrit contre la foi ou pour confondre la foi. Et si par hasard, on retrouvait un de ces manuscrits-là, ça n'en ferait pas, il ne serait pas digne de foi nécessairement.
Exactement. Il va en avoir d'autres. Donc, on n'a pas encore adressé la question des miracles. Parce que la Bible est fiable, avec autant de miracles dedans, on n'a pas adressé la question de l'inhérence au moment de l'inspiration. François? Oui, vas-y, mentionne-la. Ça fait plus qu'un iota. C'est une bonne question. Je devrais répondre à ta question lorsqu'on va traiter de l'inhérence. OK? Fait que j'ai remis une question de 20 minutes tantôt, j'en remets une peut-être de 2 semaines. C'est bon? Je devrais y répondre lorsqu'on va traiter de l'inhérence ensemble. On va aller dans un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tout ça nous rappelle quand même qu'on avance par la foi. On avance par la foi. Il y a des moments où on aimerait bien que tu viennes prendre un café avec nous, puis nous expliquer certaines de tes déclarations. On aimerait bien pouvoir être des petits oiseaux qui traversent l'histoire et voient comment chacun des copistes ont travaillé. Mais Seigneur, il demeure une chose, ta parole, nous l'avons connue. Elle supporte bien les examens de la critique textuelle, mais au-delà de cela, Seigneur, par ta grâce, par l'œuvre de ton esprit en moi, j'ai connu ta parole, Seigneur. Et tu as bouleversé ma vie et mon cœur, et tu continues à le faire, Seigneur. J'ai connu que cette parole apporte la vérité. Seigneur, merci pour ces centaines, ces milliers de scientifiques qui travaillent, qui font un travail de moines. Merci, Seigneur, pour cette époque où nous vivons, où l'information circule, et en faisant quelques recherches, on peut souvent discerner entre une espèce de conte, de fable populaire du moment qui passe et la véritable recherche scientifique, Seigneur. Merci pour tes Écritures. Apprends-nous, Seigneur, à vivre à la lumière de ta parole et à annoncer ta parole autour de nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.